Bonjour à tous, LifePoint. Je suis vraiment heureux de vous retrouver ce matin. Mon nom est Raphaël Bonella, si vous ne me connaissez pas, et je suis responsable pour l'accueil et les prochains pas à LifePoint Bruxelles. J'aurais tellement aimé qu'on puisse se rencontrer ce matin, où je puisse vous serrer la main à l'accueil, où je puisse vous donner une accolade, une embrassade. Mais je suis aussi très reconnaissant que, comme beaucoup d'églises dans le monde, nous puissions utiliser Facebook et d'autres moyens sociaux pour pouvoir transmettre notre message, notre louange dimanche matin. Et avant de commencer, j'aimerais apporter quelques petites précisions. Vous savez, le gouvernement a pris des mesures vendredi passé et mardi dernier de confinement. Donc nous avons dû modifier la manière dont nous allions vous transmettre ce message vidéo. Donc si vous vous souvenez, dimanche dernier, Jordan a prêché, moi je l'ai traduit là-bas, mais malheureusement, à cause des mesures sévères, on ne peut même plus faire ça. On avait pensé vraiment se réunir avec le groupe de louanges et tous les volontaires nécessaires pour pouvoir enregistrer un culte complet où on allait avoir de la louange, on allait avoir de la lecture de la parole, on allait chanter ensemble et recevoir le message traduit en français directement comme on a l'habitude de le faire pour que ce soit un culte, comme on va le dire, entre guillemets, normal. Mais malheureusement, on n'a pas pu faire ça. C'est pour ça qu'en fait, Jordan, notre pasteur des louanges, Jordan, notre pasteur enseignant, m'a demandé d'enregistrer le message de mon côté en français. Et lui, il a fait de son côté en anglais. Et je pense aussi que ce sera plus bénéfique pour vous d'avoir quelqu'un qui vous parle en français plutôt que simplement utiliser un système de sous-titres. J'espère maintenant clairement que cette crise ne durera pas trop longtemps et que nous pourrons de nouveau nous réunir physiquement tous ensemble et louer, chanter le Seigneur, recevoir sa parole là-bas dans le local de LifePoint. Ceci étant dit, la semaine passée, nous avons fait un peu un sermon à part parce que nous voulions nous concentrer sur le coronavirus, pardon. Mais cette semaine, nous retournons dans notre série 7, donc les 7 lettres aux 7 églises dans Apocalypse, donc chapitre 2 et 3. Et avant de poursuivre notre série, je vous propose de prier encore une fois ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es là, tu nous gardes, Seigneur. Tu es toi, tu es dans ce bateau, comme Jordan l'a dit la semaine passée, endormi à travers la tempête du coronavirus, Seigneur. Et tu nous dis, ne craignez rien. Parce que j'ai une main assez puissante que pour délivrer mon peuple de cette tempête. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute ce matin, Seigneur, que tu prépares son cœur à entendre ton message à travers Apocalypse, Seigneur, pour l'église de Sardes. Seigneur, je te prie aussi pour le temps de louange qu'on a pu avoir. Seigneur, merci, Seigneur. C'est un peu bizarre parfois de le faire en live, comme ça derrière une caméra, Seigneur, mais nous savons que tu veux utiliser cela pour ta gloire, Seigneur, et pour notre bien. Seigneur, je te demande maintenant que ce ne soit pas mes mots, mais que ce soit tes mots à travers moi, Seigneur. Seigneur, que ta parole soit compréhensible aux francophones comme elle l'a été pour les anglophones, Seigneur. Seigneur, merci pour l'église bilingue de LifePoint, Seigneur. Que tu nous réunisses tous, peu importe que nous parlions français et anglais, Seigneur. Bénis nos familles, bénis aussi ceux qui n'ont peut-être pas accès à Internet, qui ne peuvent pas avoir accès au message, Seigneur, qui ressentent ta présence, ton amour et ta grâce, Seigneur. Je prie pour tous les gens qui, à travers cette crise du coronavirus, ne te connaissent pas, Seigneur, n'ont jamais entendu parler de toi, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent faire face à cette crise, Seigneur, avec une sérénité, une paix, Seigneur, et comprendre que tu es le Seigneur et le Sauveur, Seigneur. Je te demande ces choses en ton nom. Amen. Voilà, donc prenez vos Bibles à Apocalypse 3. Nous allons examiner aujourd'hui la cinquième église, qui est en fait l'église de Sardes. Et voilà comment nous allons procéder. En fait, je vais lire les 6 versets qui correspondent à cette lettre-là en une fois. Et puis on va revenir en fait section par section. Donc, Apocalypse 3, versets 1 à 6. Voici ce qui est dit. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. Et je le reconnaîtrai devant mon père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors ainsi, comme on l'a fait précédemment pour les autres églises, un peu de contexte sur Sardes nous aidera à comprendre le message de Christ à leur intention. Donc Sardes était une ville très importante. C'était en fait dans l'Asie mineure, donc l'actuelle, on va dire, Turquie, plus ou moins située à l'ouest de la Turquie. Et donc elle se trouvait en Asie mineure, dans la province de Lydie. Alors il y avait 5 grandes routes qui convergeaient, qui menaient vers Sardes, et chacune menant encore à d'autres grandes villes. Donc vous imaginez vraiment à quel point c'était vraiment grand. Et c'était vraiment, en fait, une ville, Sardes, cruciale pour le commerce. Et cela rapportait également beaucoup d'argent, ce qui faisait de Sardes une ville incroyablement riche. De même, il y a été découvert un fleuve qui traversait la ville, où on a découvert beaucoup d'or, ce qui a engendré une grande ruée vers l'or dans cette ville. Sardes était également un endroit très, très loyal à l'Empire. Et en 17 après Jésus-Christ, un énorme tremblement de terre a dévasté la ville. Et l'empereur Tibère, à l'époque, a joué un énorme rôle dans la reconstruction de cette ville et dans son parrainage, ce qui a fait de lui un être cher aux yeux du peuple de Sardes. Et comme pour les autres villes que nous avons vues, Sardes était une ville païenne. Il y avait plein de temples païens partout, en particulier, comme à Éphèse, un énorme temple dédié à Artémis. Et il était intéressant également de noter qu'il y avait une assez grande population juive. Ce sera un point vraiment important plus tard dans le message. Donc maintenant, on va commencer à décortiquer les versets. Donc revenons au verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. D'accord, donc il y a quelques détails importants ici. Jésus se décrit comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Maintenant, cette description commence à avoir du sens quand on regarde un peu plus loin dans le verset 1. Jésus leur dit qu'ils sont une église qui a la réputation d'être vivante, mais qui sont morts. Remarquez que Jésus utilise ici une expression familière, il dit « Je connais tes œuvres ». Une variante de cette phrase apparaît à chaque discours qu'on a vu jusqu'à présent. Et à chaque fois, Jésus fait suivre cette phrase d'une louange, d'une éloge de l'Église. Mais ici, avec Sardes, c'est totalement différent. En fait, Jésus n'accorde aucune louange à Sardes dans son discours. Il rompt le schéma habituel et passe immédiatement à une critique de l'Église. Et souvenez-vous ce que nous avons dit, que Jésus est intimement conscient de ce qui se passe dans l'Église. Il connaît les cœurs et les esprits de son peuple. Ce verset nous rappelle que même lorsque nous pouvons tromper tout le monde, Jésus n'est pas dupe, il nous connaît. Sardes était une église de grande réputation parmi les autres églises. Les gens leur disaient « Wow, t'as vu, regarde ça, les activités qu'ils font, ils font plein de choses incroyables. T'as vu, Sardes, c'est vraiment une église incroyable. » De l'extérieur, il semblait un groupe solide de croyants. Mais Jésus leur dit « Je sais ce qui se passe vraiment. Vous avez la réputation d'être vivant auprès des autres églises. Mais je sais, moi, Jésus, que vous êtes mort !» Il y avait en fait une sorte de déconnexion entre la réputation de l'église de Sardes et la réalité de l'église de Sardes. Et même s'ils semblaient vivants, en bonne santé, ils étaient en fait dans un profond coma spirituel. Et d'après le verset 2, ils étaient même sur le point de mourir. Il est évident que cette église avait besoin d'un réveil. Mais comment arrive un réveil dans l'église ? Est-ce que c'est simplement en faisant plus d'activités ? Oh ouais, on va faire des activités chouettes, oh, on va faire plus de louanges avec des lumières, avec ci, avec ça. Non. Est-ce que c'est en apportant plus d'argent ? Oh, il faut qu'on trouve d'autres apports financiers pour nous réveiller, plus d'argent. Non plus. Ou alors peut-être il nous faut des meilleurs pasteurs, parce que les pasteurs qui sont déjà en place, franchement non, eux ils sont aussi endormis que l'église. Non plus. C'est grâce à la présence de Dieu et à la prédication de sa parole. Donc si vous prenez des notes ce matin, notez ceci. Le réveil passe par la présence de Dieu et la prédication de sa parole. Jésus dit qu'il est celui qui a les sept esprits. Donc rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avons dit que sept est le chiffre de la perfection. Je crois donc que ce symbole fait référence au Saint-Esprit, qui est totalement Dieu. Jésus dit qu'il a la plénitude de l'Esprit-Saint. Maintenant, une chose importante à clarifier ici. Jésus ne dit pas qu'il est la même chose que l'Esprit-Saint. Ce n'est pas ce que ce symbole signifie. Je ne veux pas non plus que vous compreniez que Jésus et le Saint-Esprit sont exactement les mêmes choses, parce que ce serait un peu une folie, une hérésie. Jésus et le Saint-Esprit sont tous les deux Dieu, ça on le sait dans la Trinité, tout en travaillant ensemble pour apporter la vie au peuple de Dieu. Voilà, j'espère que ça c'est bien clair pour vous. Ainsi, il dit qu'il est les sept esprits de Dieu. Il dit aussi qu'il a les sept étoiles, et cela fait référence aux sept pasteurs, si vous vous souvenez de la première semaine. Et je crois que cela met en évidence la domination du Christ sur l'Église par la prédication de sa parole. C'est ce que font les pasteurs, parce que les pasteurs ne prêchent pas leurs opinions. Il nous est commandé de prêcher la parole de Dieu, donc tout le conseil de Dieu, de Genèse à Révélation. Mais nos opinions n'ont pas d'importance lorsque nous prêchons. Mais mes amis, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Une puissance qui est suffisante pour réveiller une église qui est morte et dans un coma spirituel. Et cela nous amène au verset 2 et 3. Jésus dit encore, « Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. » Jésus leur dit ici, « Oh, réveillez-vous !» Et le temps du verbe grec qu'il utilise implique un état continu. Donc on pourrait aussi comprendre cela comme étant être vigilant, être éveillé. Et c'est particulièrement intéressant compte tenu de l'histoire de Sardes. Sardes pensait qu'elle était si riche, si confortable, ils se sont en fait laissés vulnérables aux attaques des ennemis. Et à deux occasions différentes, la ville a été capturée par l'ennemi, parce qu'ils n'avaient pas placé de gardien au mur, parce qu'ils étaient trop confiants dans leur technologie, dans le paysage de leur ville, pour que personne ne pourrait pénétrer dans leur mur. « Oh, nous, on est une ville riche, on a plein d'argent, on a de l'or dans nos fleuves, on n'a pas besoin de gardien, personne ne va escalader nos murs. » Mais à deux fois, ils ont été conquis. Les ennemis ont simplement escaladé les murs. Et il n'y avait pas de gardien pour donner l'alerte. Et Jésus dit à l'Église qu'ils n'ont pas besoin de faire la même chose que ce qu'a fait leur ville. Il dit « Soyez vigilants !» Car l'ennemi s'est introduit et draine la vie de votre église. Il leur dit, renforcez ce qui est sur le point de mourir. Donc, cette image, imaginez, quand on fait un barbecue, vous savez, il y a les cendres, il y a toutes ces petites braises, et ça reste chaud un moment. Et si on commence à faire du vent, le feu risque même de se raviver. Mais si on ne fait pas ça rapidement, le feu s'éteindra complètement à jamais. Et Jésus leur dit, je n'ai pas trouvé d'œuvre parfaite aux yeux de mon Dieu. Ils ont toutes dit les bonnes choses, ils pensaient qu'elles étaient bonnes, mais Jésus, lui, il a vu la mort dans leur cœur. Rappelez-vous que Jésus connaît notre cœur. Faire des choses, mes amis, pour Jésus, avec un cœur mort, ne lui plaira jamais, et ce n'est pas une véritable obéissance. Si nos cœurs ne correspondent pas à nos actions, alors nous sommes des escrocs. C'est pour cela que c'est très important, parce que ce que nous faisons détermine qui nous sommes. La manière que nous parlons détermine qui nous sommes. Maintenant, une autre différence essentielle entre cette église et les autres que nous avons vues précédemment, c'est que Jésus ne mentionne aucun conflit avec le monde extérieur. Ça, c'est quand même particulier, non ? Comment se fait-il qu'ils vivent dans une ville païenne, consacrée à des cultes et des empereurs païens, qui ne soient pas persécutés ? En outre, vous vous souvenez, on avait dit que c'était important, cette histoire qu'il y avait une grosse population juive. Pourquoi n'ont-ils pas de problème avec la population juive? D'autres églises ont subi cela, en particulier l'église de Smyrne, rappelez-vous, la deuxième semaine. Dans le Nouveau Testament, les juifs sont quand même souvent ceux qui ont persécuté l'église. Pensez à Paul, avant qu'il ne soit sauvé. C'était un tueur professionnel de chrétiens, et il était juif. Pourquoi Sardes n'a aucun problème avec le monde non-croyant? Je pense que cela va cœur du problème. Ils étaient une église qui ne prêchait pas l'évangile. Ils ne frottaient personne de la mauvaise manière parce qu'ils ne prêchaient pas la parole. Ils n'étaient pas persécutés parce qu'ils n'avaient rien fait qui les mettait en conflit avec le monde extérieur. Mais nous savons qu'une église qui ne prêche pas l'évangile, une église qui n'évangélise pas, et une église qui ne proclame pas la parole de Dieu à sa ville, est une église qui, sur ses fonctions vitales, qui est sur le point de mourir, de fermer ses portes et de se faire enlever son chandelier. La parole de Dieu est très offensante pour un non-croyant. Pensez-y. L'élite intellectuelle, les érudits de notre monde nous disent « Mais il n'y a pas de Dieu !» Mais la Bible dit seulement le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Le monde dit que tout ce que vous pensez être vrai est une vérité, mais Jésus dit que lui seul est la seule et unique vérité. Le monde dit que nous sommes bien comme nous sommes, pourquoi nous devrions changer ton évangile? Mais l'évangile dit fondamentalement que nous avons tort et que nous sommes pécheurs. Le monde dit de faire ce qui est le mieux pour vous. Mais la Bible dit de faire tout pour la gloire de Dieu. Le message de Dieu au monde est un message plein d'amour et plein de grâce, mais c'est un message offensant pour les pécheurs. Et si le message d'une église ne fait pas de vagues dans une communauté, peut-être qu'il n'atteint pas la communauté. Par exemple, écoutez ce qui s'est passé à Paul et Silas alors qu'ils ont été prêchés en Thessalonique l'évangile. Donc c'est un passage qui se trouve en Actes, chapitre 17, versets 2 à 8. Paul y entra, conformément à son habitude, pendant trois sabbats. Il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici !» Et Jason les a accueillis, ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats. Les juifs de la ville appelaient Paul et Silas des gens qui bouleversaient le monde. C'est ce que fait la parole de Dieu, mes amis. Ce passage nous montre l'effet que la parole de Dieu devrait avoir, un effet bouleversant. Parce que lorsqu'elle est annoncée, nous voyons des gens se convertir au fur et à mesure que la parole est prêchée. Mais nous voyons aussi des gens profondément bouleversés et offensés. Et dans tous les cas, la parole de Dieu produit un effet. Mais aucun effet n'a été trouvé à Sardes. C'est une église silencieuse. Sardes ressemblait plus à un club social, un endroit où les gens se sentaient bien, plutôt qu'une église qui prêche l'évangile. Mais ce n'est pas ça, une église. Ce n'est pas un club social où ouais, j'aime bien telle activité, où j'aime bien telle personne. Moi, je fais seulement parce que la louange est trop terrible, parce qu'il y a telle activité. Oh ouais, on fait des activités au parc. Non, ce n'est pas ça. L'essentiel, c'est que la parole soit prêchée. Rappelez-vous, le réveil vient par la présence de Dieu et par la prédication de sa parole. Ce que Jésus leur dit, c'est « Souvenez-vous de ce que vous avez reçu et entendu et obéissez !» Je crois que cela fait référence aux enseignements du Christ transmis par les apôtres. Ces enseignements comprennent la grande commission qui se trouve en Matthieu 28. « Faites de toutes les nations des disciples, proclamez l'évangile à toute la création. » Jésus dit que s'ils ne font pas, il viendra à eux comme un voleur. C'est une métaphore courante que Christ utilise. Ici, il ne s'agit pas de sa seconde venue, mais il s'agit plutôt du jugement qui tombera sur eux, alors qu'ils ne s'y attendent pas du tout. Et mes amis, ce matin, peut-être que l'un d'entre nous a besoin d'entendre cela. Vous avez peut-être réussi à troubler, à tromper le monde qui est autour de vous, votre entourage, mais vous ne pourrez pas tromper Dieu. Il sait ce qui est dans votre cœur. Il vous connaît parfaitement parce qu'il vous a créé. Et un jour, votre péché vous découvrira, il reviendra. à la surface, au moment où vous y attendez le moins. Alors repentez-vous aujourd'hui, confessez-vous au Seigneur, et vous serez pardonné. Et vraiment, j'ai envie de partager ce petit moment qui s'est passé dans ma vie. Alors, je n'étais pas encore un croyant. À l'époque, je vais même dire que je m'en foutais de Jésus. Un homme d'un certain âge, à l'église où j'allais avec mon épouse Itarina, est venu et m'a dit « Raphaël, Romains 19, tiens, voici mon email. Prends-le, lis-le et écris-moi, c'est personnel, personne d'autre ne le lira. » Mais que disent ces versets ? En effet, si tu déclares de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Christ vous donne une opportunité ce matin, mes amis. Là où vous êtes, derrière votre écran de PC, votre GSM, votre ordinateur, votre tablette, peu importe, il vous donne une opportunité personnelle de confesser votre péché et de l'accepter de tout votre cœur dans votre vie, qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour en revenir à l'église de Sardes, le Christ dit que le jugement viendra sur Sardes et qu'il ne serait pas prêt pour cela. C'est pour ça que Jésus oblige une obéissance immédiate, directe. Obéissez, obéissez, il leur dit. Heureusement, il semble qu'il y avait quelques personnes à Sardes qui n'étaient pas égarées. Regardons à nouveau les versets 4 et 5 de Apocalypse 3. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Dans les autres églises que nous avons vues, les faux enseignants et les faux chrétiens étaient en fait une minorité. Mais ici à Sardes, c'est l'inverse. Les vrais croyants sont une minorité. Et donc il y avait plein de faux enseignants, plein de faux chrétiens. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a seulement que quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Les vêtements non souillés font référence à ceux qui sont constamment obéissants, qui suivent Christ et qui obéissent à ses commandements. Jésus dit que ces personnes marcheront avec lui en blanc, symbolisant le fait qu'ils le connaîtront intimement, c'est-à-dire qu'ils marcheront avec lui et qu'elles participeront à sa victoire, c'est-à-dire qu'elles porteront du blanc. Parmi les croyants, il dit qu'il n'effacera jamais leur nom du livre de la vie. Cela signifie que leur salut est assuré et qu'ils ne douteront jamais s'ils font partie ou non de la famille de Christ. Notre obéissance à Christ, mes amis, ne nous donne pas notre salut. Le salut seul se trouve en Christ par son œuvre à la croix, par sa mort à la croix et sa résurrection. L'obéissance, par contre, nous apporte l'assurance de notre salut. Notre endurance et notre désir d'obéir à Christ sont la preuve que nous avons été vraiment sauvés. Notre désir de parler de lui aux autres, lorsque nous nous taisons, sont la preuve que nous lui appartenons. Il nous a adoptés, rachetés par son sang. Une fois que vous êtes en Christ, vous êtes à lui pour toujours, et il ne retirera jamais votre nom du livre de la vie. Ça, c'est une vérité, mes amis, ce matin. Si, bien sûr, vous avez accepté de tout votre cœur et réellement confessé de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Jésus nous dit qu'il confessera leur nom devant le Père. Dans Matthieu 7, Jésus parle de personnes qui se disaient chrétiennes mais qui n'y ont jamais obéi. Et il dira que le dernier jour, il leur dira « Je ne vous ai jamais connu. » Waouh ! Ça, c'est vraiment effrayant. Mais pour ceux qui lui obéissent, qui l'aiment et qui le chérissent, il promet qu'il dira leur nom au Père. Il dira « Je les ai couverts de ma justice. » et qu'ils m'appartiennent. Quelle pensée incroyable ! Notre seul plaidoyer devant le Père est Christ, et Christ seul. Rappelez-vous dans les cinq solas de la Réforme, « Solus Christus ». Notre seule confiance devant un Dieu saint et juste est l'intercession de Dieu entre faveurs. C'est pour cela que le jour où nous quittons cette terre et nous comparaîtrons devant Dieu, il nous verra blanc comme neige, car nous sommes couverts par le sang du Christ, notre avocat, notre plaidoyer. Il termine sa lettre par le verset 6, « Que celui qui a des oreilles écoute et que ce que l'Esprit dit aux églises. » Ce message s'adresse à tout le monde, ce message est pour nous tous dans l'Église. Et ma prière pour ce corps à LifePoint est que nous soyons un peuple passionné d'évangélisation. J'espère qu'au fil des années, LifePoint sera connu à Bruxelles, non pas pour ses activités ou pour étant un club social, mais parce que la parole y est prêchée, parce que le vrai et unique évangile y est prêché. J'espère que nous serons un peuple qui fera briller l'amour de Christ dans notre ville. Et quel moment, mes amis, pour le faire? Alors que nous sommes confinés chez nous, quel temps pour témoigner à nos voisins, à nos familles, aux personnes qui vivent dans notre bâtiment ou dans notre voisinage? J'espère que nous sommes une église qui n'a pas peur de dire les choses difficiles de l'Écriture. Je me rappelle, c'est une des choses qui m'a vraiment attiré à LifePoint. C'est que LifePoint, les prédicateurs, n'avaient pas peur de dire la vérité de la Bible, même si ça allait en contre de la société. Une église, mes amis, qui ne prêche pas l'Évangile, ne sera pas une église pour longtemps. Je peux vous promettre que tant que vous serez ici à LifePoint Bruxelles, vous recevrez la prédication de tout le conseil de Dieu. Le vrai Évangile sera prêché. Nous serons des gens qui proclameront le véritable Évangile à Bruxelles et à la Belgique, et à l'Europe et au monde entier. Alors mes amis, ne soyons jamais une église morte, endormie par notre confort et notre sécurité. Que nous ne soyons pas endormis par le confort et la sécurité, même maintenant. Serions-nous des gens qui sont prêts à prendre des risques pour montrer l'amour du Christ à notre prochain en ce moment? Que nous soyons des personnes qui saisissent toutes les occasions de montrer l'amour du Christ à ceux qui nous entourent de toute manière possible. Que notre Église ne soit jamais un lieu rempli de faux chrétiens, de faux enseignants qui reconnaissent Jésus avec leurs lèvres, puis qui sortent par la porte et renient Jésus par leur manière de vivre. J'espère que Bruxelles sera bouleversée par le témoignage de cette Église. Et c'est le moment, mes amis, pour prier pour Bruxelles, pour ses habitants, pour tous les gens qui sont malades par ce virus. Et j'espère vraiment qu'on entendra d'innombrables personnes qui ont connu Christ à travers la crise du coronavirus. Alors prions pour ces gens. Inscrivons leur nom sur un papier et demandons au Seigneur d'être ce genre d'église maintenant et pour tout le temps. L'église qui va aller prêcher aux nations l'évangile de Jésus-Christ. Je vous propose maintenant de prier encore une fois ensemble et nous clôturons. Seigneur, merci pour ta lettre à l'église de Sarthe. Merci Seigneur parce que tu leur demandes de se réveiller et de t'obéir Seigneur, afin que la partie qui leur reste ne meure pas Seigneur. Seigneur, que LifePoint Bruxelles ne soit pas comme l'église de Sarthe et que nous puissions Seigneur avec courage et avec audace sortir de notre confort et de notre sécurité et prêcher Seigneur ta parole. Car oui, le réveil d'une église vient par ta présence, mais aussi par la prédication de ta parole, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a écouté ce message ce matin, qu'il soit de bénédiction pour lui, pour son entourage, pour sa famille, Seigneur. Seigneur, oui, maintenant que les gens vont arrêter ce live, Seigneur, qu'ils puissent réfléchir et méditer sur cela, Seigneur. Et si quelqu'un, Seigneur, ce matin a un besoin de se repentir de son péché, Seigneur, que ton Esprit Saint touche son cœur maintenant, Seigneur, et qu'il lui donne la foi nécessaire pour se repentir au pied de son Sauveur et son Seigneur, que de son cœur, Seigneur, il croit que tu es le Seigneur et le confesse par sa bouche. Seigneur, je te prie pour les francophones qui ont entendu ce message, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Réconforte-les, fortifie-les, Seigneur. Seigneur, bénis aussi les anglophones qui ont entendu le message du pasteur Jordan, Seigneur, ce matin. Seigneur, vraiment que LifePoint reste soudé, Seigneur, et que nous utilisons cette période de confinement pour nous rapprocher de toi, pour te connaître à travers ta parole, car oui, c'est seulement à travers ta parole que tu nous parles, Seigneur. Seigneur, c'est au nom de Jésus que je te prie, Seigneur. Toi qui es là endormi dans le bateau, Seigneur, tu nous dis, calmez-vous, Seigneur. Prenez vos précautions par rapport à ce virus, mais soyez calme et tranquille, parce que je suis là pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Amen. Voilà, très bien, la vidéo est terminée, mes amis. J'espère vraiment que vous avez été nourris par la parole ce matin et de voir ce que la parole de Christ est capable de faire à une église qui est morte spirituellement. Et malheureusement, je pense que c'est vraiment le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises qui peuvent paraître très bien de l'extérieur. Ils ont beaucoup d'activités. On a l'impression que c'est tous les gens super affermis dans leur foi. Mais peut-être qu'à l'intérieur, ils sont dans un coma spirituel et ils ont besoin d'un réveil. Vraiment, qu'on nous puissions avoir ce courage, cette audace de pouvoir leur prêcher le vrai évangile, afin que leurs actions reflètent ce qu'ils disent et qu'ils soient vraiment tout pour la gloire de Dieu. J'espère vraiment que vous, que votre famille et vous-même vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Surtout, prenez soin de vous, parce que souvent, on pourrait dire « Oh, moi, je suis chrétien, de toute façon, il ne peut rien m'arriver, tranquille. » Ce n'est pas ça non plus que Christ nous demande. Il dit « Soyez vigilants, prenez vos précautions. » Voilà, je ne vais pas vous rappeler les précautions, parce que je pense que l'État nous les a assez rappelés tout au long des discours de la semaine, parce qu'on n'entend plus que coronavirus, coronavirus, coronavirus. Mais vraiment, que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur et j'ai hâte vraiment de vous serrer la main ou de vous embrasser prochainement. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.